Chapitre 17. La toilette. Nous allons chercher, comme dans les abîmes, les anciennes prérogatives de cette noblesse qui, depuis 11 siècles, est couverte de poussière, de sang et de sueur. Montesquieu. La voiture du grand écuyer roulait rapidement vers le Louvre lorsque, fermant les rideaux dont elle était garnie, il prit la main de son ami et lui dit avec émotion « Cher de tout, j'ai gardé de grands secrets sur mon cœur et croyais qu'ils y ont été bien pesants. Mes deux craintes m'ont forcé au silence, celle de vos dangers et, le dirais-je, celle de vos conseils. Vous savez cependant bien, dit de tout, que je méprise les premiers et je pensais que vous ne méprisiez pas les autres. Non, mais je les redoutais, je les crains encore. Je ne veux point être arrêté. Ne parlez pas, mon ami, pas un mot, je vous en conjure, avant d'avoir entendu et vu ce qui va se passer. Je vous ramène chez vous en sortant du Louvre. Là, je vous écoute et je pars pour continuer mon ouvrage, car rien ne m'ébranlera, je vous en avertis. Je l'ai dit à ces messieurs chez vous tout à l'heure. » Saint-Mars n'avait rien dans son accent de la rudesse que supposeraient ses paroles. Sa voix était caressante, son regard doux, amical et affectueux, son air tranquille et déterminé dès longtemps. Rien n'annonçait le moindre effort sur soi-même. De tout le remarqua et en gémit. « Hélas !» dit-il en descendant de sa voiture avec lui. Et il le suivit en soupirant dans le grand escalier du Louvre. Lorsqu'ils entrèrent chez la reine, annoncés par des huissiers vêtus de noir et portant une verge d'ébène, elle était assise à sa toilette. C'était une sorte de table d'un bois noir, plaquée d'écailles, de nacre et de cuivre incrusté, et formant une infinité de dessins d'assez mauvais goût, mais qui donnait à tous les meubles un air de grandeur qu'on y admire encore. Un miroir arrondi par le haut, et que les femmes du monde trouveraient aujourd'hui petit et mesquin, était seulement posé au milieu de la table. Des bijoux et des colliers épars la couvraient. Anne d'Autriche, assise devant et placée sur un grand fauteuil de velours cramoisi à longues franges d'or, restait immobile et grave comme sur un trône, tandis que Donia Stefania et Madame de Motteville donnaient de chaque côté quelques coups de peigne fort légers, comme pour achever la coiffure de la reine, qui était cependant en fort bon état et déjà entremêlée de perles, tressées avec ses cheveux blonds. Sa longue chevelure avait des reflets d'une beauté singulière qui annonçait qu'elle devait avoir au toucher la finesse et la douceur de la soie. Le jour tombait sans voile sur son front. Il ne devait point redouter cet éclat et en jetait un presque égal par sa surprenante blancheur qu'elle se plaisait à faire briller ainsi. Ses yeux bleus mêlés de vert étaient grands et réguliers et sa bouche, très fraîche, avait cette lèvre inférieure des princesses d'Autriche, un peu avancée et fendue légèrement en forme de cerise que l'on peut remarquer encore dans tous les portraits de cette époque. Il semble que leur peintre ait pris à tâche d'imiter la bouche de la reine pour plaire peut-être aux femmes de sa suite dont la prétention devait être de lui ressembler. Les vêtements noirs, adoptés alors par la cour et dont la forme fut même fixée par un édit, relevaient encore l'ivoire de ses bras, découverts jusqu'au coude et ornés d'une profusion de dentelles qui sortaient de ses larges manches. De grosses perles pendaient à ses oreilles et un bouquet d'autres perles plus grandes se balançaient sur sa poitrine et se rattachaient à sa ceinture. Tel était l'aspect de la reine en ce moment. À ses pieds, sur deux coussins de velours, un enfant de 4 ans jouait avec un petit canon qu'il brisait. C'était le dauphin depuis Louis XIV. La duchesse Marie de Mantoue était assise à sa droite sur un tabouret, la princesse de Guéménée, la duchesse de Chevreuse et mademoiselle de Montbazon, mesdemoiselles de Guise, de Rohan et de Vendôme, toutes belles ou brillantes de jeunesse, était placé derrière la reine et debout. Dans l'embrasure d'une croisée, monsieur, le chapeau sous le bras, causait à voix basse avec un homme d'une taille élevée, assez gros, rouge de visage et l'œil fixe et hardi. C'était le duc de Bouillon. Un officier d'environ 25 ans, d'une tournure svelte et d'une figure agréable, venait de remettre plusieurs papiers au prince. Le duc de Bouillon paraissait les lui expliquer. Monsieur de Thou, après avoir salué la reine qui lui dit quelques mots, aborda la princesse de Guéménée et lui parla à demi-voix avec une intimité affectueuse, mais pendant cet aparté, attentif à surveiller tout ce qui touchait son amie et tremblant en secret que sa destinée ne fût confiée à un être moins digne qu'il ne l'eût désiré, il examina la princesse Marie avec cette attention scrupuleuse, cet œil scrutateur d'une mère sur la jeune personne qu'elle choisirait pour compagne de son fils, car il pensait qu'elle n'était pas étrangère aux entreprises de Saint-Marc. Il vit avec mécontentement que sa parure, extrêmement brillante, semblait lui donner plus de vanité que cela n'eût dû être pour elle et dans un tel moment. Elle ne cessait de replacer sur son front et d'entremêler avec ses boucles de cheveux les rubis qui paraient sa tête et n'égalaient pas l'éclat et les couleurs animées de son teint. Elle regardait souvent Saint-Marc, mais c'était plutôt le regard de la coquetterie que celui de l'amour, et souvent ses yeux étaient attirés vers les glaces de la toilette où elle veillait à la symétrie de sa beauté. Ces observations du conseiller commencèrent à lui persuader qu'il s'était trompé en faisant tomber ses soupçons sur elle, et surtout quand il vit qu'elle semblait éprouver quelque plaisir à s'asseoir près de la reine, tandis que les duchesses étaient debout derrière elle et qu'elle les regardait souvent avec hauteur. « Dans ce cœur de 19 ans, se dit-il, l'amour serait seul, et aujourd'hui surtout. Donc ce n'est pas elle. » La reine fit un signe de tête presque imperceptible à Madame de Guéménée, après que les deux amis eurent parlé à voix basse un moment avec chacun. Et à ce signe, toutes les femmes, excepté Marie de Gonzague, sortirent de l'appartement sans parler, avec de profondes révérences, comme si c'eût été convenu d'avance. Alors la reine, retournant son fauteuil elle-même, dit à monsieur « Mon frère, je vous prie de vouloir bien venir vous asseoir près de moi. Nous allons nous consulter sur ce que je vous ai dit. La princesse Marie ne sera point de trop, je l'ai priée de rester. Nous n'aurons aucune interruption à redouter d'ailleurs. » La reine semblait plus libre dans ses manières et dans son langage, et, ne gardant plus sa sévère et cérémonieuse immobilité, elle fit aux autres assistants un geste qui les invitait à s'approcher d'elle. Gaston d'Orléans, un peu inquiet de ce début solennel, vint nonchalamment s'asseoir à sa droite et dit avec un demi-sourire et un air négligent, jouant avec sa fraise et la chaîne du Saint-Esprit pendant à son cou. « Je pense bien, madame, que nous ne fatiguerons pas les oreilles d'une si jeune personne par une longue conférence. Elle aimerait mieux entendre parler de danse et de mariage, d'un électeur ou du roi de Pologne, par exemple. » Marie prit un air dédaigneux. Saint-Marc fronça le sourcil. « Pardonnez-moi, répondit la reine en la regardant, je vous assure que la politique du moment l'intéresse beaucoup. « Ne cherchez pas à nous échapper, mon frère, » ajouta-t-elle en souriant. « Je vous tiens aujourd'hui. C'est bien la moindre des choses que nous écoutions Monsieur de Bouillon. » Celui-ci s'approcha, tenant par la main le jeune officier dont nous avons parlé. « Je dois d'abord, dit-il, présenter à votre majesté le baron de Beauvau qui arrive d'Espagne. »« D'Espagne ? » dit la reine avec émotion. « Il y a du courage à cela. Vous avez vu ma famille ?»« Il vous en parlera, ainsi que du comte duc d'Olivares. Quant au courage, ce n'est pas la première fois qu'il en montre. Vous savez qu'il commandait les cuirassiers du comte de Soissons. »« Comment ? Si jeune, monsieur ! Vous aimez bien les guerres politiques ?
Au contraire, j'en demande pardon à votre majesté, répondit-il, car je servais avec les princes de la paix.
Anne d'Autriche se rappela le nom qu'avaient pris les vainqueurs de la Marfée et sourit.
Le duc de Bouillon, saisissant le moment d'entamer la grande question qu'il avait en vue, quitta Saint-Marc, auquel il venait de donner la main avec une effusion d'amitié, et s'approchant avec lui de la reine.
« Il est miraculeux, madame, lui dit-il, que cette époque fasse encore jaillir de son sein quelque grand caractère comme ceci. » Et il montra le grand écuyer, le jeune Beauveau et monsieur de Toux.
Ce n'est qu'en eux que nous pouvons espérer désormais. Ils sont à présent bien rares, car le grand niveleur a passé sur la France une longue faux.
« Est-ce du temps que vous voulez parler ? » dit la reine, « ou d'un personnage réel ?»«
Trop réel, trop vivant, trop longtemps vivant, madame, » répondit le duc plus animé. « Cette ambition démesurée, cet égoïsme colossal ne peuvent plus se supporter. Tout ce qui porte un grand cœur s'indigne de ce joug, et dans ce moment, plus que jamais, on entrevoit toutes les infortunes de l'avenir. »
Il faut le dire, madame. Oui, ce n'est plus le temps des ménagements. La maladie du roi est très grave. Le moment de penser et de résoudre est arrivé, car le temps d'agir n'est pas loin.
Le ton sévère et brusque de M. de Bouillon ne surprit pas Anne d'Autriche. Mais elle l'avait toujours trouvé plus calme et fut un peu émue de l'inquiétude qu'il témoignait. Aussi, quittant le ton de la plaisanterie qu'elle avait d'abord voulu prendre,
« Eh bien, quoi ? Que craignez-vous et que voulez-vous faire ?»«
Je ne crains rien pour moi, madame, car l'armée d'Italie ou Sedan me mettront toujours à l'abri. Mais je crains pour vous-même et peut-être pour les princes, vos fils. »«
Pour mes enfants, monsieur le duc, pour les fils de France ? L'entendez-vous, mon frère ? L'entendez-vous ? Et vous ne paraissez pas étonné ?»
La reine était fort agitée en parlant.
« Non, madame, dit Gaston d'Orléans fort paisiblement, vous savez que je suis accoutumé à toutes les persécutions. Je m'attends à tout de la part de cet homme. Il est le maître, il faut se résigner. »«
Il est le maître, reprit la reine, et de qui tient-il son pouvoir, si ce n'est du roi ? Et après le roi, quelle main le soutiendra, s'il vous plaît ? Qui l'empêchera de retomber dans le néant ? Sera-ce vous ou moi ?
« Ce sera lui-même, interrompit M. de Bouillon, car il veut se faire nommer régent, et je sais qu'à l'heure qu'il est, il médite de vous enlever vos enfants et demande au roi que leur garde lui soit confiée. »«
Me les enlever ? » s'écria la mère, saisissant involontairement le dauphin et le prenant dans ses bras.
L'enfant, debout entre les genoux de la reine, regarda les hommes qui l'entouraient avec une gravité singulière à cet âge, et, voyant sa mère tout en larmes, mit la main sur la petite épée qu'il portait.
« Ah, monseigneur, dit le duc de Bouillon, en se baissant à demi pour lui adresser ce qu'il voulait faire entendre à la princesse.
Ce n'est pas contre nous qu'il faut tirer votre épée, mais contre celui qui déracine votre trône. Il vous prépare une grande puissance, sans doute. Vous aurez un sceptre absolu. » Mais il a rompu le faisceau d'armes qui le soutenait. Ce faisceau-là, c'est notre vieille noblesse qui l'a décimé. Quand vous serez roi, vous serez un grand roi, j'en ai le pressentiment. Mais vous n'aurez que des sujets et point d'amis, car l'amitié n'est que dans l'indépendance et une sorte d'égalité qui naît de la force. Vos ancêtres avaient leur père et vous n'aurez pas les vôtres. Que Dieu vous soutienne alors, monseigneur, car les hommes ne le pourront pas ainsi sans les institutions. Soyez grand, mais surtout qu'après vous, grand homme, il en vienne toujours d'aussi fort. Car en cet état de choses, si l'un d'eux trébuche, toute la monarchie s'écroulera.
Le duc de Bouillon avait une chaleur d'expression et une assurance qui captivait toujours ceux qui l'entendaient. Sa valeur, son coup d'œil dans les combats,
la profondeur de ses vues politiques, sa connaissance des affaires d'Europe, son caractère réfléchi et décidé tout à la fois, le rendait l'un des hommes les plus capables et les plus imposants de son temps, le seul même que redouta réellement le cardinal-duc. La reine l'écoutait toujours avec confiance et lui laissait prendre une sorte d'empire sur elle. Cette fois, elle fut plus fortement émue que jamais. « Ah, plût à Dieu ! S'écria-t-elle. « Que mon fils eût la moue verte à vos discours et le bras assez fort pour en profiter. Jusque-là, pourtant, j'entendrai, j'agirai pour lui. C'est moi qui dois être et c'est moi qui serai régente. Je n'abandonnerai ce droit qu'avec la vie. S'il faut faire une guerre, nous la ferons, car je veux tout, excepté la honte et l'effroi, de livrer le futur Louis XIV à ce sujet couronné. » « Oui, » dit-elle en rougissant et serrant fortement le bras du jeune dauphin. « Oui, mon frère, et vous, messieurs, conseillez-moi. Parlez, où en sommes-nous? Faut-il que je parte? Dites-le ouvertement. Comme femme, comme épouse, j'étais prête à pleurer tant ma situation était douloureuse. Mais à présent, voyez, comme mère, je ne pleure pas. Je suis prête à vous donner des ordres s'il le faut. » Jamais Anne d'Autriche n'avait semblé si belle qu'en ce moment, et cet enthousiasme qui paraissait en elle électrisa tous les assistants qui ne demandaient qu'un mot de sa bouche pour parler. Le duc de Bouillon jeta un regard rapide sur monsieur, qui se décida à prendre la parole. « Ma foi, dit-il d'un air assez délibéré, si vous donnez des ordres, ma sœur, je veux être votre capitaine des gardes sur mon honneur. Car je suis là aussi des tourments que m'a causé ce misérable, qui ose encore me poursuivre pour rompre mon mariage et tient toujours mes amis à la Bastille ou les fait assassiner de temps en temps. Et d'ailleurs, je suis indigné, dit-il en se reprenant et baissant les yeux d'un air solennel. Je suis indigné de la misère du peuple. Mon frère, reprit vivement la princesse, je vous prends au mot. Car il faut faire ainsi avec vous, et j'espère qu'à nous deux, nous serons assez forts. Faites seulement comme monsieur le comte de Soissons, et ensuite, survivez à votre victoire. Rangez-vous avec moi, comme vous fîtes avec monsieur de Montmorency, mais sautez le fossé. » Gaston sentit l'épigramme. Il se rappela son trait trop connu, lorsque l'infortuné révolté de Castelnaudary franchit presque seul un large fossé et trouva de l'autre côté 17 blessures, la prison et la mort, à la vue de monsieur, immobile comme son armée. Dans la rapidité de la prononciation de la reine, il n'eut pas le temps d'examiner si elle avait employé cette expression proverbialement ou avec intention, mais dans tous les cas, il prit le parti de ne pas la relever et en fut empêché par elle-même, qui reprit en regardant Saint-Marc. Mais avant tout, pas de terreur panique. Sachons bien où nous en sommes. Monsieur le Grand, vous quittez le roi, avons-nous de telles craintes ? Défiat n'avait pas cessé d'observer Marie de Mantoue, dont la physionomie expressive peignait pour lui toutes ses idées plus rapidement et aussi sûrement que la parole. Il y lut le désir de l'entendre parler, l'intention de faire décider monsieur et la reine. Un mouvement d'impatience de son pied lui donna l'ordre d'en finir et de régler enfin toute la conjuration. Son front devint pâle et plus pensif. Il se recueillit un moment, car il sentait que là étaient toutes ses destinées. De tout le regarda et frémit, parce qu'il le connaissait. Il eût voulu lui dire un mot, un seul mot. Mais Saint-Marc avait déjà relevé la tête et parla ainsi. « Je ne crois point, madame, que le roi soit aussi malade qu'on vous l'a pu dire. Dieu nous conservera longtemps encore ce prince, je l'espère, j'en suis certain même. Il souffre, il est vrai, il souffre beaucoup. Mais son âme surtout est malade, et d'un mal que rien ne peut guérir, d'un mal que l'on ne souhaiterait pas à son plus grand ennemi, et qui le ferait plaindre de tout l'univers si on le connaissait. Cependant, la fin de ses malheurs, je veux dire de sa vie, ne lui sera pas donné encore de longtemps. Sa langueur est toute morale. Il se fait dans son cœur une grande révolution. Il voudrait l'accomplir et ne le peut pas. Il a senti depuis longues années s'amasser en lui les germes d'une juste haine contre un homme auquel il croit devoir de la reconnaissance, et c'est ce combat intérieur entre sa bonté et sa colère qui le dévore. Chaque année qui s'est écoulée a déposé à ses pieds d'un côté les travaux de cet homme et de l'autre ses crimes. Voici qu'aujourd'hui, ceux-ci l'emportent dans la balance. Le roi voit et s'indigne. Il veut punir. Mais tout à coup, il s'arrête et le pleure d'avance. Si vous pouviez le contempler ainsi, madame, il vous ferait pitié. Je l'ai vu saisir la plume qui devait tracer son exil, la noircir d'une main hardie et s'en servir. Pourquoi ? Pour le féliciter par une lettre. Alors, il s'applaudit de sa bonté comme chrétien, il se maudit comme juge souverain, il se méprise comme roi, il cherche un refuge dans la prière et se plonge dans les méditations de l'avenir. Mais il se lève épouvanté parce qu'il a entrevu les flammes que mérite cet homme et que personne ne sait aussi bien que lui les secrets de sa damnation. Il faut l'entendre à cet instant s'accuser d'une coupable faiblesse et s'écrier qu'il sera puni lui-même de n'avoir pas su le punir. On dirait quelquefois qu'il y a des ombres qui lui ordonnent de frapper, car son bras se lève en dormant. Enfin, madame, l'orage gronde dans son cœur, mais ne brûle que lui. La foudre n'en peut pas sortir. « Eh bien, qu'on la fasse donc éclater !» s'écria le duc de Bouillon. « Celui qui la touchera peut en mourir, » dit monsieur. « Mais quel beau dévouement !» dit la reine. « Que je l'admirerai !» dit Marie à demi-voix. « Ce sera moi !» dit Saint-Marc. « Ce sera nous !» dit monsieur de Toux à son oreille. Le jeune Beauveau s'était rapproché du duc de Bouillon. « Monsieur, lui dit-il, oubliez-vous la suite ?»« Non, pardieu, je ne l'oublie pas !» répondit tout bas celui-ci. Et s'adressant à la reine. « Acceptez, madame, l'offre de monsieur le grand. Il est à portée de décider le roi plus que vous et nous. Mais tenez-vous prête à tout, car le cardinal est trop habile pour s'endormir. Je ne crois pas à sa maladie. Je ne crois point à son silence et à son immobilité qu'il veut nous persuader depuis 2 ans. Je ne croirai point à sa mort même que je n'eusse porté sa tête dans la mer comme celle du géant de l'Arioste. Attendez-vous à tout, hâtons-nous sur toute chose. J'ai fait montrer mes plans à monsieur tout à l'heure. Je vais vous en faire l'abrégé. Je vous offre Sedan, madame, pour vous et mes seigneurs vos fils. L'armée d'Italie est à moi. Je la fais rentrer s'il le faut. Monsieur le grand écuyer est maître de la moitié du camp de Perpignan. Tous les vieux huguenots de La Rochelle et du Midi sont prêts au premier signe à le venir trouver. Tout est organisé depuis 1 an par mes soins en cas d'événement. Je n'hésite point, dit la reine, à me mettre dans vos mains pour sauver mes enfants s'il arrivait quelque malheur au roi. Mais dans ce plan général, vous oubliez Paris ? Il est à nous par tous les points. Le peuple par l'archevêque, sans qu'il s'en doute, et par monsieur de Beaufort qui est son roi. Les troupes par vos gardes et ceux de monsieur qui commandera tout s'il le veut bien. Moi ? Oh, cela ne se peut pas absolument. Je n'ai pas assez de monde et il me faut une retraite plus forte que Sedan, dit Gaston. Mais elle suffit à la reine, reprit monsieur de Bouillon. Ah, cela peut bien être, mais ma sœur ne risque pas autant qu'un homme qui tire l'épée. Savez-vous que c'est très hardi ce que nous faisons là ? Quoi ? Même en ayant le roi pour nous ? Dit Anne d'Autriche. Oui, madame, oui, car on ne sait pas combien cela peut durer. Il faut prendre ses sûretés et je ne fais rien sans le traiter avec l'Espagne. Ne faites donc rien, dit la reine en rougissant. « Car certes, je n'en entendrai jamais parler. »
« Ah, madame, ce serait pourtant plus sage, et monsieur a raison, » dit le duc de Bouillon. « Car le comte-duc de Sanlúcar nous offre 17 000 hommes de vieilles troupes et 500 000 écus comptants. » « Quoi ? » dit la reine étonnée. « On a osé aller jusque-là sans mon consentement ? Déjà des accords avec l'étranger ?»« L'étranger, ma sœur, devions-nous supposer qu'une princesse d'Espagne se servirait de ce mot ?» répondit Gaston. Anne d'Autriche se leva en prenant le dauphin par la main et s'appuyant sur Marie. « Oui, monsieur, dit-elle, je suis espagnole, mais je suis petite fille de Charles Quint et je sais que la patrie d'une reine est autour de son trône. Je vous quitte, messieurs, poursuivez sans moi, je ne sais plus rien désormais. » Elle fit quelques pas pour sortir et, voyant Marie tremblante et inondée de larmes, elle revint. « Je vous promets cependant solennellement un inviolable secret, mais rien de plus. » Tous furent un peu déconcertés, hormis le duc de Bouillon, qui, ne voulant rien perdre de ses avantages, lui dit en s'inclinant avec respect. « Nous sommes reconnaissants de cette promesse, madame, et n'en voulons pas plus, persuadés qu'après le succès, vous serez tout à fait des nôtres. » Ne voulant plus s'engager dans une guerre de mots, la reine salua un peu sèchement et sortit avec Marie, qui laissa tomber sur Saint-Mars un de ces regards qui renferment à la fois toutes les émotions de l'âme. Il crut lire dans ses beaux yeux le dévouement éternel et malheureux d'une femme donnée pour toujours, et il sentit que, s'il avait jamais eu la pensée de reculer dans son entreprise, il se serait regardé comme le dernier des hommes. Sitôt qu'on quitta les deux princesses, « Là, 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 je vous l'avais bien dit, Bouillon, vous fâchez la reine, » dit monsieur. « Vous avez été trop loin aussi. On ne m'accusera pas certainement d'avoir faibli ce matin. J'ai montré, au contraire, plus de résolution que je n'aurais dû. » »« Je suis plein de joie et de reconnaissance pour Sa Majesté, » répondit monsieur de Bouillon d'un air triomphant. « Nous voilà sûrs de l'avenir. Qu'allez-vous faire à présent, monsieur de Saint-Mars ?» « Je vous l'ai dit, monsieur, je ne recule jamais. Quelles qu'en puissent être les suites pour moi, je verrai le roi, je m'exposerai à tout pour arracher ses ordres. »« Et le traité d'Espagne ?»« Oui, je le... » De tout saisit le bras de Saint-Mars et, s'avançant tout à coup, dit d'un air solennel. « Nous avons décidé que ce serait après l'entrevue avec le roi qu'on le signerait, car... Si la juste sévérité de Sa Majesté envers le cardinal vous en dispense, il vaut mieux, avons-nous pensé, ne pas s'exposer à la découverte d'un si dangereux traité. » Monsieur de Bouillon fronça le sourcil. « Si je ne connaissais monsieur de Tout, dit-il, je prendrais ceci pour une défaite, mais de sa part... » « Monsieur, reprit le conseiller, je crois pouvoir m'engager sur l'honneur à faire ce que fera monsieur le Grand. Nous sommes inséparables. » Saint-Mars regarda son ami et s'étonna de voir sur sa figure douce l'expression d'un sombre désespoir. Il en fut si frappé qu'il n'eut pas la force de le contredire. « Il a raison, messieurs, dit-il seulement avec un sourire froid mais gracieux. Le roi nous épargnera peut-être bien des choses. On est très fort avec lui. Du reste, monseigneur, « et vous, monsieur le duc, ajouta-t-il avec une inébranlable fermeté, ne craignez pas que jamais je recule. J'ai brûlé tous les ponts derrière moi. Il faut que je marche en avant. La puissance du cardinal tombera où ce sera ma tête. » « C'est singulier, fort singulier, dit monsieur. Je remarque que tout le monde ici est plus avancé que je ne le croyais dans la conjuration. » « Point du tout, monsieur, dit le duc de Bouillon. On n'a préparé que ce que vous voudrez accepter. Remarquez qu'il n'y a rien d'écrit et que vous n'avez qu'à parler pour que rien n'existe et n'ait existé. Selon votre ordre, tout ceci sera un rêve ou un volcan. » « Allons, allons, je suis content puisqu'il en est ainsi, dit Gaston. Occupons-nous de choses plus agréables. Grâce à Dieu, nous avons un peu de temps devant nous. Moi,
j'avoue que je voudrais que tout fût déjà fini. Je ne suis point né pour les émotions violentes, cela prend sur ma santé, ajouta-t-il, s'emparant du bras de M. de Beauvau. Dites-nous plutôt si les Espagnols sont toujours jolis, jeune homme. On vous dit fort galant. Tudieu, je suis sûr qu'on a parlé de vous là-bas. On dit que les femmes portent des vertugadins énormes. Eh bien, je n'en suis pas ennemi du tout. En vérité, cela fait paraître le pied plus petit et plus joli. Je suis sûr que la femme de Don Louise de Haro n'est pas plus belle que Madame de Guéménée, n'est-il pas vrai? Allons, soyez francs, on m'a dit qu'elle avait l'air d'une religieuse. Ah, vous ne répondez pas? Vous êtes embarrassé? Elle vous a donné dans l'œil? Ou bien vous craignez d'offenser notre ami Monsieur de Thou en la comparant à la belle Guéménée? Eh bien, parlons des usages. Le roi a un nain charmant, n'est-ce pas? On le met dans un pâté. Qu'il est heureux, le roi d'Espagne! Je n'en ai jamais pu trouver un comme cela. Et la reine, on la serre à genoux, toujours, n'est-il pas vrai? Oh, c'est un bon usage, nous l'avons perdu. C'est malheureux, plus malheureux qu'on ne croit. Gaston d'Orléans eut le courage de parler sur ce ton près d'une demi-heure de suite à ce jeune homme, dont le caractère sérieux ne s'accommodait point de cette conversation et qui, tout rempli encore de l'importance de la scène dont il venait d'être témoin et des grands intérêts qu'on avait traités, ne répondit rien à ce flux de paroles oiseuses. Il regardait le duc de Bouillon d'un air étonné, comme pour lui demander si c'était bien là cet homme que l'on allait mettre à la tête de la plus audacieuse entreprise conçue depuis longtemps, tandis que le prince, sans vouloir s'apercevoir qu'il restait sans réponse, les faisait lui-même souvent et parlait avec volubilité en se promenant et l'entraînant avec lui dans sa chambre. Il craignait que l'un des assistants ne s'avisât de renouer la conversation terrible du traité. Mais aucun n'en était tenté, sinon le duc de Bouillon, qui, cependant, garda le silence de la mauvaise humeur. Pour Saint-Marc, il fut entraîné par De Thou, qui lui fit faire sa retraite à l'abri de ce bavardage, sans que monsieur eût l'air de l'avoir vu sortir.